L'invité de RFI Matin, Frédéric Rivière, vous recevez aujourd'hui Éric Charbonnier, analyste à la direction de l'éducation et des compétences à l'OCDE.
Bonjour Éric Charbonnier.
Bonjour.
L'OCDE a présenté hier son rapport annuel sur l'éducation. Voilà maintenant un an et demi que l'éducation est bousculée, malmenée par la crise sanitaire à des degrés très divers. Et justement, est-ce qu'on peut commencer par essayer de dresser une espèce de tableau des pays qui ont le plus et le moins été touchés par cette crise sanitaire, par les effets de cette crise sanitaire en matière d'éducation?
Tous les pays ont été touchés, mais il y a eu des volontés politiques différentes. Ouais. C'est-à-dire que la France, mais aussi pas que la France, la Suisse, le Luxembourg sont des pays où on a essayé de fermer au minimum les écoles. Donc c'est une forme de réussite. On peut voir en France, par exemple, les écoles ont fermé entre 34 et 50 jours. C'est deux fois moins que la moyenne des pays de l'OCDE. A contrario, des pays comme le Mexique ont fermé pendant plus de 6 mois leurs écoles. Aujourd'hui, il y a une véritable fracture entre les pays de l'OCDE et c'est une réflexion parce qu'on a pu voir que la fermeture des écoles a créé une perte d'apprentissage, a créé une aggravation des inégalités. C'est pour ça qu'il faut vraiment tenir aujourd'hui et faire en sorte que les élèves les plus défavorisés puissent avoir de la remédiation pour rattraper ce retard.
La France est vraiment, comme aime à le répéter le président de la République ou le ministre de l'Éducation nationale, l'un des pays au monde qui a fait le mieux en la matière?
Oui, ça fait partie du groupe, pas le seul. Comme je vous dis, Belgique, Suisse, Nouvelle-Zélande ont réussi aussi à peu fermer leurs écoles. Mais il y a eu une véritable volonté politique. On a pu le voir en France, beaucoup voulaient que les écoles ferment, alors que le ministre de l'Éducation a tenu. Donc ça, c'est un bon point. Et on peut voir que c'est nécessaire, parce que la France est un des pays les plus inégalitaires en termes d'éducation. Donc la fermeture des écoles aurait eu un impact encore plus grand.
Alors, vous le dites, la France est l'un des pays les plus inégalitaires. Et dans ce rapport, vous souligner la nécessité pour la France de réduire les inégalités, car elles sont très fortes et même elles ont tendance à s'aggraver. De quelles inégalités parle-t-on ?
Des inégalités scolaires, des inégalités sociales, c'est-à-dire quand on vient d'un milieu défavorisé en France, on a moins de chances de réussir dans le système d'éducation, on a plus de chances de se retrouver dans des filières professionnelles qui sont peu valorisées. Les enfants des milieux défavorisés sont aussi sous-représentés dans les filières les plus prestigieuses à l'université. Ils ont du mal à trouver des emplois à la hauteur de leurs qualifications, même quand ils obtiennent un diplôme universitaire. Voilà, on a aujourd'hui une fracture sociale sur laquelle l'école doit faire plus pour créer de la vocation, pour aider ces enfants des milieux défavorisés à savoir qu'ils ont un chemin vers la réussite.
Ouais. Quand vous dites que les inégalités se sont aggravées, puisque c'est dit dans le rapport, comment l'explique-t-on? Quels sont les facteurs qui ont contribué à cette aggravation?
Mais il y a eu à la fois une hausse du niveau d'éducation, mais de la population. Mais on peut voir que notre système d'éducation a une façon d'enseigner où ça fonctionne pour certains élèves, ça fonctionne moins pour d'autres, et on a du mal à gérer les élèves.
Ça, c'est un peu inéluctable, non? Un système d'éducation.
Pas dans tous les pays, c'est-à-dire c'est une question de formation. On le dit souvent, nos enseignants sont formés sur le côté académique, moins que sur le volet pédagogique. Ils le disent eux-mêmes, ils ont du mal à faire face à des classes multiculturelles, à faire de la pédagogie différenciée avec les élèves. Voilà, il faut aider nos enseignants aussi à être mieux préparés face aux élèves les plus en difficulté.
Ouais. Dans la plupart des pays de l'OCDE, dit votre rapport, le statut socio-économique, c'est-à-dire au fond le niveau de richesse des familles, hein, pour dire les choses simplement, et le niveau d'éducation aussi des familles, a plus d'influence sur les résultats de l'apprentissage que le sexe ou que le statut d'immigré. Ça, c'est une information intéressante.
Oui, c'est complètement intéressant de voir, alors c'est pas dans tous les pays, mais cette origine sociale, le niveau socio-économique, influe sur les études, et on le voit que ces enfants des milieux défavorisés sont surreprésentés parmi ceux qui sont les moins qualifiés. Et on sait qu'en France, quand on sort sans qualification sur le marché du travail, on est dans une plus grande précarité qu'ailleurs. Un jeune sans qualification a un taux d'emploi de 50%. Avec un diplôme de l'enseignement supérieur, on monte à 90%. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'il faut vraiment avoir une réflexion globale sur notre système d'éducation et sur l'investissement dans les zones les plus défavorisées.
Alors, je donne ce chiffre qu'on peut trouver dans votre rapport, 35% d'élèves peu performants parmi les jeunes issus de milieux défavorisés contre 7% 3% seulement au sein des milieux favorisés. Votre rapport observe donc que les élèves dont les parents sont les moins éduqués sont les plus susceptibles d'intégrer, et vous l'avez dit, des filières professionnelles plutôt que des filières générales. Est-ce qu'avec ce genre d'observation, on n'entretient pas, on ne contribue pas à perpétuer ce regard un peu dévalorisant qui existe depuis des décennies? Moi, je me souviens, au collège, il y a quelques décennies, les gamins qui n'avaient pas de bons résultats, y compris les profs, des fois, leur disaient « Attention, ou tu vas finir en apprentissage », comme si c'était une espèce de honte.
Mais vous avez raison, et c'est un véritable problème français. Il y a un besoin de valoriser les filières professionnelles, et l'intérêt des comparaisons de l'OCDE, c'est qu'on a 38 pays. Si vous allez en Suisse, si vous allez en Allemagne, si vous allez en Autriche, la perception des filières professionnelles n'est pas la même. L'apprentissage est très développé, on crée des vocations chez les enfants. Ceux qui réussissent dans les filières professionnelles peuvent continuer les études jusqu'au niveau master. Il faut se poser la question, pourquoi notre pays dévalorise autant ces filières professionnelle, alors qu'on a besoin de davantage de techniciens dans toutes les filières. On l'a vu avec la crise du Covid, on a mis l'accent sur les métiers de la santé, sur certains métiers professionnels où on a besoin de davantage de main-d'œuvre. Donc il faudrait vraiment changer d'état d'esprit, ouais, ça serait essentiel.
Pourquoi on n'y arrive pas? Parce que ça fait aussi quelques décennies qu'on entend il faut revaloriser l'apprentissage des filières professionnelles. Il y a des pays où ça fonctionne remarquablement bien, l'Allemagne ou la Suisse peut-être, qui est l'un des meilleurs exemples.
Exactement, c'est des pays où ça fonctionne bien, mais en France, on est très attaché à un système d'éducation très élitiste depuis Napoléon. C'est historique, et je pense qu'il faut aujourd'hui laisser de la place pour toutes ces filières-là et arrêter de se dire que la réussite d'un système d'éducation se mesure juste à la proportion de jeunes qui vont aller dans les grandes écoles ou les filières les plus prestigieuses.
Il y a un enseignement, si je puis dire, très important de votre rapport, qui fera sans doute plaisir aux enseignants lorsqu'ils le liront, parce que finalement c'est une manière de les soutenir. Vous dites qu'ils ne sont pas assez payés, et il est vrai que les écarts de rémunération sont considérables, si on compare notamment avec l'Allemagne ou le Luxembourg, où là pour le coup, les enseignants sont vraiment des notables, comme on disait autrefois, c'est-à-dire qu'avec des niveaux de salaire extrêmement élevés.
Bon, le Luxembourg est un peu particulier parce qu'il y a un niveau de vie qui est beaucoup plus élevé que le nôtre. Tous les salaires sont élevés dans la société au Luxembourg, mais la comparaison avec l'Allemagne est intéressante. Un enseignant allemand gagne deux fois plus qu'un enseignant français en termes de moyenne de l'OCDE.
Il n'y a quasiment pas d'enseignant allemand qui gagne moins de 4 000 euros par mois.
En début de carrière.
Oui.
Voilà, donc le métier est différent en Allemagne. Les enseignants allemands passent plus de temps dans les établissements que nos enseignants français. Ils enseignent plusieurs matières. Il y a différents critères. La fonction publique en Allemagne est d'une façon générale mieux rémunérée que la fonction publique française. Il y a différents critères qui peuvent expliquer, mais sans comparer avec l'Allemagne, un enseignant débutant en France gagne 7% de moins que la moyenne des pays de l'OCDE. Après 15 ans d'ancienneté, la différence est de 20%. Il gagne 20% de moins. Donc, sans doubler le salaire des enseignants, il y a quelque chose à faire pour améliorer les débuts de carrière.
Oui, vous dites sans doubler parce que c'était la proposition d'Anne Hidalgo, candidate à la présidentielle. Très rapidement, vous êtes membre du comité de l'évaluation de l'école qui a été créé par Jean-Michel Blanquer. Des propositions tirées du Grenelle de l'éducation devraient être annoncées dans les prochaines semaines. Vous pouvez nous donner quelques précisions?
Les discussions, nous on est sur le conseil d'évaluation, on est en train de mettre en place notre évaluation des établissements. C'est aujourd'hui permettre à chaque établissement de s'évaluer, des auto-évaluations, c'est quelque chose qui est important, qui va permettre justement de donner davantage d'autonomie aux établissements. On est plus sur ces sujets-là en ce moment.
Merci Éric Charbonnier, bonne journée.